C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux et aujourd'hui, je me livre un exercice un peu périlleux puisque je suis spécialiste des jeux solo, un peu moins des podcasts en solitaire. Et oui, mon ami et collaborateur Martin Lafrenière est absent cette semaine, mais c'est pour une bonne cause puisqu'il débute ses vacances. Alors je vous propose de se joindre à moi pour lui souhaiter bonnes vacances, Martin. Ça sera donc un épisode un peu spécial car oui, je serai seul derrière le micro pour tout l'épisode, mais je suis convaincu que vous allez être nombreux, cette fois-ci de l'autre côté du haut-parleur, pour partager un 102e épisode de notre podcast consacré aux jeux de société. Alors ça ne sera donc pas un épisode A ni un côté B, mais plutôt un épisode bonus dans lequel effectivement je vous partagerai quelques expériences ludiques, mais je vous propose de faire quelque chose d'un peu différent. Donc j'en profite, le chat n'est pas là. Salut Martin. Alors les souris dansent, c'est parti. Et oui, je vous propose un épisode spécial axé sur la musique. On connaît tous les trames sonores de nos films favoris, de nos émissions de télévision et même de certains jeux vidéo, mais qu'en est-il des jeux de société? Oui, ça existe. Des compositions musicales pour accompagner nos jeux de société, soit en ambiance, soit directement axés sur le gameplay. Alors, je vous propose de faire un tour d'horizon de ce qui sera disponible et en même temps, ben, ça vous permettra d'écouter et de relaxer, d'apprécier cette belle musique parce que oui, il se fait de belles choses au niveau du jeu de société également. Mais ça ne sera pas uniquement, vous savez bien, que de l'écoute de musique, puisque j'aime ça, agrémenter ça d'un petit côté ludique. Alors, ce sera un quiz que je vais vous proposer cette semaine, donc un quiz audio basé sur les jeux de société, mais avec une série de questions pour vous permettre de découvrir les jeux qui se cachent derrière ces fameuses œuvres musicales-là. Mais avant de passer à la présentation des règles et comment se déroulera le quiz, je vous propose de prendre quelques nouvelles en vrac, en commençant par notre pool de jeux de société. On vous avait parlé la semaine dernière qu'on allait vous présenter le gagnant. Alors, roulement de tambour. Mais je vous garde encore un petit peu de suspense pour vous parler des statistiques. Nous avons eu quand même 125 participants pour ce fameux pool de jeux de société, une première et qui a eu quand même une belle réception de votre part. Donc merci à tous les participants. C'est plus de 265 jeux différents qui ont été amenés lors de ce pool-là. Meilleur score, 957 points. Ah tiens, ça ressemble à mon score ça. Et la moyenne est de 589. Et qu'en est-il de l'autre Martin? On en profite, peut-être pas pour ça qu'il n'est pas là cette semaine, il est allé se cacher. Mais non, il y a un honorable 471 points avec une 88e position. C'est quand même pas en queue de peloton. Alors, qui est le gagnant? On trêve de suspense. On applaudit tout le monde, Christian Labrèche, avec ses 957 points. Donc, exactement le même pointage que moi. Qui termine en première position et qui se voit mériter un prix, donc une bourse d'études, oui, plutôt un certificat cadeau de 100$ dans la boutique de son choix, mais donc ça sera la pioche puisque c'est notre commanditaire. Alors on va finaliser les ententes avec Jean-Philippe et Christian, tu pourras communiquer avec nous directement, soit sur la page Facebook ou soit par courriel, donc de l'autre côté du plateau à gmail.com, et on s'arrangera pour te remettre le certificat cadeau en question. Et on remercie bien sûr tous les participants et principalement notre commanditaire qui n'était pas encore au courant, mais JP, je t'avise que c'est toi qui seras l'heureux récipiendaire du fardeau d'envoyer les jeux qui seront commandés par Christian avec ce prix-là. Et Christian, je t'invite à communiquer avec nous et peut-être même de prendre une photo, mettre ça sur Facebook et identifier quels seront les jeux que tu auras choisi, là ou les jeux, pour le prix de présence ou le prix d'argent. Avoir remporté le fameux et première édition du pool, donc bravo Christian. Mais ça ne sera pas tout, puisqu'on vous a dit qu'il allait avoir des prix de présence ou des prix de participation. Et là, comme Martin n'est pas là pour ce tirage-là, je vais attendre Martin la semaine prochaine. Donc, tout n'est pas perdu. Si vous avez participé, vous avez encore la chance d'avoir d'autres prix qui suivront la semaine prochaine. Donc, on fera un tirage avec Martin. Ça me prend quelqu'un, un témoin autour de moi pour vous certifier le gagnant. Alors, ça sera la semaine prochaine qu'on fera ça. J'en profite par contre pour remercier tous ceux qui ont participé. On a eu énormément de monde. Je peux parler là, des premières positions. Martin Chagnon avec 926 points. Patrick Tourangeau avec 917. Mais il y en a énormément d'autres comme Florent, Mathieu, François, Marie-Ève. Bref, je pourrais continuer comme ça longtemps parce qu'il y en a 125, c'est pas rien. Donc, un gros merci à tout le monde et on se redonne rendez-vous l'année prochaine. Donc, début de la saison, prochaine saison, donc probablement début de l'année, pour vous parler de ce que sera le prochain pool. Et je vous invite à commenter peut-être sur Facebook pour nous dire quelles sont les pistes d'amélioration qu'on peut faire, parce que c'était vraiment improvisé. On essaie quelque chose, je pense qu'on a eu un beau succès, mais on peut s'améliorer, c'est sûr. Et dernière, pour finalement remercier nos deux grands collaborateurs qui ont été nos ingénieurs du site, nos statisticiens qui ont tenu ce pool-là à bout de bras, on peut dire ça. Donc, je remercie spécifiquement Michael et Claude qui étaient donc de service pour compiler toutes ces données-là et mettre ça disponible pour ceux qui suivaient ça de près. Donc, le challenge des Martins et le fameux pool de jeux de société. Donc, merci beaucoup à tout le monde de m'avoir suivi dans cette folie-là, parce que oui, c'est un peu une folie. Alors, parlant de la pioche, cette semaine, j'ai eu quand même énormément de réceptions. C'était ma journée, ma semaine colis, donc j'ai passé une commande de certains titres et je vous propose de les regarder, plutôt de les écouter parce que vous ne serez pas là pour les voir, mais je vais vous donner un listing de ce que j'ai reçu. En commençant par Lord of the Ring, The Adventure Book Game, c'est un jeu de Ravensburger. Martin, tu en avais parlé la semaine dernière en disant que c'était un de ses coups de cœur. Donc, à partir de 10 ans, 1 à 4 joueurs. C'est un livre-jeu d'aventure qui se joue avec des cartes, des figurines. J'ai lu les règles, c'est malin, c'est bien fait. C'est des règles changeantes d'une partie d'aventure à l'autre. Le but, c'est de faire la quête de Frodon et d'aller porter l'anneau dans la montagne du Mordor. Et tout ça m'a l'air très très bien fait pour un petit jeu quand même abordable. On parle de moins de 50$ canadiens. Beau matériel, bien rempli, bref, bon, seul bémol, c'est que c'est en anglais seulement. Mais c'est Ravensburger, donc généralement les titres vont être traduits. J'imagine que ça suivra prochainement également. Alors c'est des petites aventures d'une vingtaine de minutes par chapitre. Je joue en mode coopératif et effectivement c'est un solo que je voulais tester. Alors, content d'avoir reçu ça. Merci, JP, de m'avoir mis ça de côté. Mais rapidement, je l'avais commandé pour être sûr d'avoir ma copie. J'ai une grosse boîte que j'ai commandée. Bon, j'aime ça prendre des choses un peu plus insolites. Parce que oui, je suis capable de ramasser des jeux un peu partout. Mais des campagnes de Kickstarter, c'est plus compliqué. Et là, c'est un jeu que j'avais vu passer sur Kickstarter d'une compagnie complètement inconnue. Il s'appelle Cognito. C'est le jeu Solar 175. Un jeu de Madeleine et de Joseph Adam, donc probablement un couple. Une grosse boîte, assez remplie. C'est un jeu donc dans un univers futuriste. On va construire un monde à partir d'un jeu qui va nous permettre de gérer des économies. Bref, c'est assez intéressant. C'est de 1 à 4 joueurs. On parle d'une trentaine de minutes par joueur pour la partie. Une boîte bien remplie avec beaucoup de matériel. Et c'est un jeu qui était passé sur Kickstarter, comme je vous disais, avec un 2079 contributeurs, un peu plus de 170 000 de l'Angleterre, 1 à 5 joueurs. C'est un jeu qui avait été rapidement financé, qui a eu quand même un certain succès. Et ce qui est surprenant, c'est la vitesse à laquelle ça a été livré. Donc ça a été financé en mars 2022 et c'est déjà arrivé chez les backers et les boutiques. Donc intéressant tout ça. Alors, beaucoup de contenu à l'intérieur du jeu. C'est un jeu dans lequel on va être 175 ans plus tard d'une grosse guerre. Et on va comme ça essayer de prendre le contrôle du système solaire en gérant différentes ressources, essayant de mettre en place des gouvernements. Il y a un peu d'économie dans ce jeu-là. C'est vraiment un Eurogame, mais il y a un aspect legacy parce que les parties vont se succéder et vont modifier l'environnement dans lequel on va évoluer. Il y a une fusion entre un bag building et un placement d'ouvriers. On fait beaucoup référence à deux jeux qui ont inspiré le gameplay, et on m'a parlé de Orléans, le backbuilding, et ça, ben, pour moi, c'est un beau, c'est un type de mécanique que j'aime beaucoup. Alors, j'étais curieux d'aller essayer ça. Matériel était quand même assez bien, avec des plateaux de trois épaisseurs engravés, beaucoup de matériel, un peu de figurines, beaucoup de tuiles. Bon, encore là, c'est uniquement en anglais, mais il y a une variante solo, mais c'est sûr qu'il y a un aspect de vote à l'intérieur. Alors, je sais, j'ai hâte de voir comment ils vont faire adapter cette mécanique-là à ce jeu-ci. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont pledgé la campagne, mais laissez-moi savoir. Moi, j'ai pris la boîte comme ça sur un coup de tête en me disant, je vais aller essayer ça. Un environnement qui m'intéresse dans un univers un peu utopique, alors à voir. Et avait, durant la campagne, dans le pledge de luxe, la possibilité d'avoir le Gonza Index, qui est une petite boîte de dés essentiellement, c'est un jeu de dés et d'économie qui est tiré du même univers, mais c'est comme un stand-alone, là. C'est un petit jeu vraiment abordable, des parties d'une trentaine de minutes, encore une fois de 1 à 5 joueurs, rapide à mettre en place, et comme le premier est également un back-building, et là celui-là ça m'intéressait, donc j'ai pris la totale, donc j'ai pris le Gonza Index, qui est le petit jeu qui venait avec le all-in, si on veut, de la campagne. Alors, j'ai ramassé ces deux items-là, totalement inconnus, totalement sur un coup de tête. Mais des fois, on fait de belles surprises avec ces jeux-là. Donc, ça va être à découvrir pour moi. J'ai ajouté également un petit livre de vacances. J'aime ça avoir de la lecture, mais j'aime ça aussi me casser la tête, me creuser les méninges lorsque je relaxe sur le quai. Et j'ai pris le livre des rituels. Alors, c'est arrivé en français. C'est un jeu vraiment d'énigmes dans lequel on va, comme ça, essayer de déchiffrer différents codes. Un petit jeu casse-tête avec une petite histoire qui se déroule à l'intérieur. C'est un jeu qui est disponible chez Pixie Game, initialement chez Board and Dice, couverture rigide, abordable, en environ 25-26$. Donc, c'est pour passer le temps. Puisque je vous parle souvent également de Roll and Write et que Martin m'a mis au défi de faire mon top 50, je ne peux pas les laisser passer. Je suis obligé maintenant de tous les essayer. Et j'ai pris un jeu, je dirais un grand classique avec quelques guillemets, des jeux de figurines avec Zombicide et est arrivé donc Gears Up. Plusieurs abonnés m'ont déjà parlé de ce jeu-là, il y en a qui l'aiment bien, donc je voulais le découvrir. C'est un flip and write dans l'univers de Zombicide. Petite boîte, des ordres de zombies à combattre, des formes, donc une espèce d'effet de poléomino à barrer pour se débarrasser des zombies. Alors, hâte de voir comment ça se déroule tout ça. C'est de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, des parties rapides d'une trentaine de minutes. Belle boîte remplie. Alors, j'ai ajouté ça à ma collection. Et finalement, un dernier petit jeu solo qui est maintenant disponible grâce à Matago, qui ont repris les micro-games que j'affectionne bien. Donc, se joue uniquement solo celui-ci. C'est Convoyeur très spécial. C'est de Luca Gentry et c'est un jeu qui se joue en une trentaine de minutes. Un jeu d'exploration spatiale et on va engranger certaines ressources pour pouvoir améliorer notre vaisseau et faire une espèce de pick-up and deliver mais dans l'espace et combattre différents ennemis qu'on rencontrera sur la route. Un petit peu à la Firefly si on veut. Un petit jeu de cartes, une quinzaine, 16 cartes environ. Et c'est drôle parce que j'avais couvert, durant la campagne Kickstarter, l'auteur m'avait envoyé un print and play de ce jeu-là pour en faire la démonstration. Alors, content de voir que c'est arrivé et que c'est disponible en français. Alors, c'est initialement de la compagnie Bottom Share Game, et qui arrive donc en français chez Matago. Donc, dernière acquisition, petit jeu portatif à traîner un peu partout pour passer le temps, une petite 30 minutes en solo, avec Convoyeur très spatial. Alors, c'était pour mes acquisitions à la pioche. Donc, encore une fois, merci JP. On va vous revenir lorsque j'aurai eu la chance de les tester pour vous donner mes appréciations des jeux. Et bon, ma découverte, parce que dans certains cas, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Alors, encore une fois, je vous incite grandement à aller jeter un coup d'œil sur le site internet de la boutique La Pioche. Vous y trouverez toutes les nouveautés, les réassorts, les jeux usagés même disponibles. Et le service est vraiment impeccable puisque JP est rapide sur la gâchette et vous envoie ça rapidement de façon très efficace et vous avez un beau suivi des commandes et même de la réception pour vous dire est-ce que tout est arrivé en bon état et si vous appréciez les jeux. Donc, grand merci pour ce service hors pair, JP. Très efficace comme toujours. De mon côté, j'ai ramené deux jeux du bureau, qui même un peu plus que ça. D'ailleurs, oui, je pense à ça, j'en ai pas mal plus. Mais un que j'attendais impatiemment, j'ai failli me le procurer en France, en anglais. Mais quand j'ai su que Knott's Publishing le faisait en français, j'ai attendu la boîte et là, on vient de le recevoir. C'est une autre campagne narrative en solo. Et c'est le jeu Résistance, la lutte contre Franco, qui vient d'arriver en français ici au Québec. Alors, un joueur seulement, des 30 minutes par partie, 10 ans et plus. Et c'est un jeu essentiellement de cartes, une gestion de main de cartes, qui nous permet comme ça de passer à travers différents scénarios. Je pense qu'il y a 8 scénarios de base et 3 scénarios historiques. Ça fait une belle rejouabilité. Et c'est des concepteurs donc on apprécie beaucoup pour les solos avec David Thompson et Trevor Benjamin, entre autres. Et s'ajoute une autre personne que je ne connais pas, qui est Richard Tankersley. Alors, un trio cette fois-ci. Mais j'aime beaucoup l'aspect graphique, BD, Mortimer du jeu. Ça m'attire. Alors, moi qui est amateur de bande dessinée, je pense que, ouais, déjà en partant, je trouve le concept assez bien fait. Un peu dans le même esprit que le jeu qu'il y avait chez Knott's, qui s'appelle Expédition perdue, je crois, en français. Alors, ça me fait un peu penser à celui-là en termes de visuel. Reste à voir si le gameplay est différent. Je pense que oui, mais comme c'est une campagne solo avec plusieurs scénarios, bon, je viens de finir Legacy of You, qui est probablement ma surprise de l'année. Et reste à voir si Résistance atteindra les mêmes sommets, mais moi, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent cette année. Alors, ceux qui ont eu la chance d'y jouer, vous me laisserez savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai ramassé un jeu de cartes également que je suis content de savoir qui s'en vient en français. Et c'est de Molly Johnson, Robert Melvin et Stan Stankovic. C'est pour ceux qui connaissent la compagnie Flat Out Game. Et vous savez que j'aime bien à peu près tout ce qu'ils font. On a vu Cascadia, on a vu Calico, on a vu Salade de Points. Et celui-ci est dans le même esprit, donc ça s'appelle Point City. On a repris un peu les mécaniques de base de Salade de Points avec quelque chose de différent quand même, puisqu'on construit des villes, on va avoir des ressources, on va gérer des cartes pour pouvoir construire notre petite ville indépendamment chacun de notre côté. Mais toujours l'histoire de draft qui est intéressante dans ces jeux-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est rendu avec un 1 à 4 joueurs, fait que même eux n'ont pas échappé à la tendance du solo, et ont pris la peine de faire une variante 1 joueur, donc partie rapide de 15 à 30 minutes. Moi qui aime beaucoup Salade de Points, qui a joué énormément, je pense que celui-là va rapidement tomber dans mes favoris jeux passe-temps en solo, à pouvoir jouer, puis en famille aussi, donc... Je pense que ça va être pour moi un succès, mais je vais me donner la chance de l'essayer. Alors, Point City, qui va arriver bientôt en français. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler. 2 Point City, je ne sais pas. Ou Cité 2.0, ce serait bien. Alors, à suivre, donc, initialement chez AEG, qui arrive en français. Ensuite, on a reçu le TTMC Voyage, donc le nouveau TTMC. C'est notre deuxième boîte format Voyage, volume 2, qui arrive. Boîte rouge, dans ce cas-ci. Donc, tout le monde... Peu, en tout cas, pas mal de monde connaît le concept de « tu te mets combien », un jeu questionnaire qui nous permet de s'auto-évaluer dans une catégorie spécifique, mais c'est souvent très loufoque. Alors, au dos, ici, on dit « quand tu te mets combien » en chanson qui dit « nanana ». Ça veut dire tout et ça veut dire rien. Alors, c'est ce genre de questions-là. Et on choisit un degré de difficulté. Dans le fond, 1 étant très facile, 10 étant plus très compliqué. Et on peut aller dans différentes catégories comme improbable, plaisir, scolaire et mature. Et on va avancer comme ça. C'est des petites boîtes autonomes, mais comme c'est le même type de contenu de carte, à chaque fois, c'est que tout ça se combine. On peut tout mélanger, nos deux extensions et la boîte de base qui en fait un gros jeu. Et les boîtes de voyage, c'est fun parce qu'on peut les traîner partout avec nous et on peut combiner les cartes selon les différentes boîtes qu'on a. Donc, content de voir que ça arrive. C'est toujours très, très winner de notre côté avec TTMC. Et je sais que la compagnie initiale du jeu en France ont repris un petit peu notre concept de boîte de voyage. J'ai vu qu'ils faisaient maintenant quelque chose de similaire. Alors, on a fait des petits de ce côté-là également. On a aussi reçu les packs d'Eratum, donc les Errata plutôt, des cartes de Lucky Duck Game pour le jeu Hearts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que oui, il y avait quelques lacunes au niveau des impressions des cartes initialement, au niveau des territoires, des paysages et tout ça. Donc c'est arrivé. Si vous avez acheté votre jeu au Québec dans une boutique et que vous n'avez pas les cartes, vous pouvez demander au propriétaire de la boutique de commander les packs et nous, on enverra les packs dans la boutique pour pouvoir vous donner accès à ces changements-là. Sinon, ceux qui ont passé par la campagne de sociofinancement, je sais que Davy m'a confirmé que ça allait être envoyé directement au backer par la poste. Si c'est pas déjà fait, vous devriez recevoir ça très prochainement. Donc, pour nous, ça vient d'arriver. Je pourrais continuer longtemps comme ça parce que les jeux s'accumulent sur mon bureau. J'en ai quand même pas mal. Mais c'est pas juste ça qu'on doit parler aujourd'hui. On va quand même donner la peine de passer à travers différents sujets. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme?
Quoi de neuf, Martin, dans le merveilleux monde du jeu?
On avait couvert, lors d'une émission précédente, notre top 5, je pense, des jeux de notre première moitié de 2023 qui nous avaient intéressés, qui nous avaient plu au niveau de nos expériences ludiques. Et on vous avait demandé la même chose, donc de partager sur la page Facebook quel était de votre côté les jeux qui vous avaient surpris en 2023. Alors, je propose, puisqu'on s'est dit quatre fois qu'on allait le faire et on ne l'a pas fait encore, de passer à travers tous ceux qui ont pris la peine de nous écrire. Alors, on commence peut-être avec Sylvain, j'aime beaucoup ton nom. Donc, Sylvain Wynn, vous irez voir sur la page pour savoir comment il l'écrit. Alors, Dune Imperium avec les deux extensions. Effectivement, les extensions ajoutent beaucoup au jeu de base, qui est déjà un classique, et y jouer avec ces extensions-là, ça fait toute la différence. Alors, bon choix. Ensuite, Anachronie, encore une fois avec l'extension, je crois, donc Fracture of Time. Et celui-là, je ne l'ai pas essayé. Je pense que Martin non plus ne l'a pas encore essayé. Je sais qu'il l'a reçu, mais toujours pas testé. Donc, content de savoir que ça fait partie de tes belles expériences. Ça me forcera peut-être à le sortir de mon côté. Great Western Trail avec la Rail du Nord. Ça non plus, c'est pas testé. Moi, j'ai testé Argentina, que j'ai bien aimé. Ark Nova. Je pense que tout le monde se doit l'avoir au moins essayé une fois dans sa vie. Alors, content que tu l'aies apprécié. Et finalement, Earth, qui est dans ton top 5. Oui, je pense qu'il y a sa place, effectivement, parce que c'est une des belles surprises de l'année. Alors, Guillaume Noël, de son côté, Frostpunk, on l'a mis aussi dans nos coups de cœur. Moi, je l'ai oublié dans mon coup de cœur, mais c'est juste que j'ai oublié de le mettre dans ma liste. Il va sûrement se retrouver dans ma liste finale à la fin de l'année. Alors, c'est à suivre. Eleven, le jeu de management d'équipe de soccer ou de football qui est très particulière, très immersif, très réel. Alors, bon choix. Sleeping Gods, effectivement un autre grand classique. L'autre, je ne le connais pas, c'est Reckland Run qui j'ai vu passer la pochette du jeu, mais c'est pas un jeu que je connais. Et finalement, Solar Sphere que j'ai regardé à maintes et maintes et maintes reprises. Je pense que même notre ami JP à la pioche a le jeu. Et je ne me le suis pas procuré. Je pense qu'il n'y avait pas de solo dans celui-là. Et j'ai toujours hésité, mais j'aime beaucoup cette thématique-là. Alors, content de savoir qu'il fait partie de ton top 5, Guillaume. Ça sera attesté de mon côté. Côté de Pat Larochelle, nous parle de Meadow. Donc, un jeu que j'ai testé déjà il y a peut-être 2 ans déjà. Mais je sais qu'ils ont sorti une extension là, qui va peut-être permettre de parler du jeu. Welcome to the Moon, classique du Roll and Write. Reste à voir où est-ce que je vais le mettre dans mon top 50 qui s'en vient éventuellement. Heat, Pedal to the Metal, donc le jeu de course qui est pour moi une très très belle réimplantation, une belle adaptation du jeu Flamme Rouge, mais qui est suffisamment différent pour qu'on les considère comme deux jeux distincts. Beaucoup aimé mes parties de Heat, surtout en grand groupe. Ruse Instinct of the Dent, que je connais pas. Alors, merci de la suggestion. Donc, Ruse Instinct of the Dent, à voir pour moi. Et son numéro 1 à Pat La Rochelle, c'est Final Girl, qui est un classique du solo qui s'est imposé par lui-même avec sa thématique film d'horreur, qu'on aura probablement la chance d'en reparler tantôt. Alors, de côté de Benoît Turangeau, qu'on a vu, je pense, dans le pool de Juste Société, et on parle de Distill en numéro 1, Hurt en numéro 2 et Eleven en numéro 3. Donc, on a parlé des deux derniers. Distill, je ne l'ai pas essayé. Je sais qu'on en parle souvent bien, donc à tester de mon côté. William Simard parle d'un gros jeu qui est revenu sur Kickstarter en même temps que la campagne de Dead Cells, je pense. C'est Aeon's Trépass Odyssey. Qui, encore là, a été un des coups de cœur de JP, de LP plutôt, du Professeur Board Game. Je sais qu'il avait beaucoup apprécié. Vindication, qui vient d'arriver en français. D'ailleurs, tous ceux qui ont commandé au Québec, je vous dis que les copies sont sur le point d'arriver. On a commencé à recevoir, j'ai reçu cette semaine un pack d'extensions, donc j'ai pas tout reçu la commande, mais c'est en route, ça devrait pas tarder s'il n'y a pas de grève dans les ports. For Glory, un jeu que j'ai testé, ça fait déjà un petit bout de temps, avec mon beau-frère Normand, donc un jeu de chevalier assez bien fait. Endless Winter, qui est encore là un gros jeu avec multiples composantes à l'intérieur, des mécaniques de jeu qui s'entrecroisent. Ça pourrait être too much, mais au final, c'est super bien implanté dans le jeu et c'est très cohérent tout ça, donc une belle réussite de ce jeu-ci. Et finalement, Heat, encore une fois, qui fait son retour dans le top 5. Steve Prévost, donc mon collaborateur de l'autre côté du plateau, mais également sur la chaîne YouTube La Société des Jeux, qui nous parle de Earth, mais il ne peut pas le mettre dans sa liste parce qu'il l'a joué en 2022. Sky Team, mais il ne peut pas le mettre dans sa liste parce que c'est un proto, puis ça sort fin 2023, il n'est pas sorti encore. Rest Darwin Journey, il n'est pas sûr. Alors, son top 5 à lui, c'est Tiltum, excellent jeu, je l'ai mis dans ma liste. 1960, Kennedy versus Nixon, que j'ai pas essayé, mais j'ai entendu du bien. The Vulgari Elkerntia, que j'ai aucune idée de quoi tu me parles, Steve, va falloir qu'on regarde ça ensemble. Finalement, Twilight Struggle in the Horn of Africa, un jeu qui a été présenté également sur ma chaîne en compagnie de Vincent, je pense, qui, lui, j'aimerais ça le tester parce que je pense que c'est cette version aussi qui ont ajouté un solo dans la boîte, donc à voir de mon côté. Et Marrakech, qui est le gros jeu, la grosse boîte, qui n'a pas été testée pour moi non plus, mais qui semblerait être très bonne. Sylvain Couture, de son côté, Oplomachus Victorum, j'ai ma boîte qui est encore... Ben, elle est déballée, j'ai commencé à lire les règles, j'ai toujours pas essayé, donc il faut que je me trouve le temps d'aller essayer celui-ci. C'est de Chapter Regame, et là je me suis remis dans les campagnes de Too Many Bones, pour ceux qui ont vu les photos passer. Et ça, c'est grâce à la piqûre lorsque j'ai rejoué au jeu en compagnie de Stéphane et Martin lorsqu'on a fait notre LAL improvisé au chalet. Et là, ça me donne depuis ce temps-là le goût d'y rejouer. J'ai sorti ma copie et en français, je dois dire que j'ai plus de facilité à le sortir. Ça m'intéresse plus à le jouer. Donc, bonne chose. Alors, à découvrir au Plomokis, je ne l'ai pas encore essayé. Dice Throne Adventure, en français également chez Lucky Dog Game, excellent choix. Final Girl... Into the Void, il spécifie même lequel des jeux parce que c'est un paquet de petites boîtes. Distill qui revient et sur les traces de Darwin, effectivement très surprenant comme petit jeu. Moi, c'est une de mes belles découvertes de cette année. Mathieu Lamontagne, alors découverte de Star of Acarius. Martin nous en a parlé en long et en large. Moi, je n'y ai pas joué. C'est un fameux de Gloomhaven dans l'espace et bon. Un jour, je me mettrai la main sur la copie, une des copies, et je pourrai y jouer. C'est toujours pas essayé de mon côté, mais je me promets bien d'essayer cette campagne-là. Heat, Pedal to the Metal, fait encore son apparition. Skyrim, qui est donc la réadaptation du jeu Mombasa, dans l'espace cette fois-ci. Spirit Island, un grand classique des jeux de coopération. qui est un aspect de carte assez intéressant, qui de la symétrie. Bref, c'est un jeu excessivement bien fait. Sleeping Gods, en numéro 1, qui est effectivement très surprenant par son narratif bac à sable, une étendue de territoire à couvrir impressionnant. Des heures de découverte et d'aventure avec Sleeping God. Mathieu Landry qui parle de Paper Adventure, Paperback Adventure plutôt, que je n'ai pas joué dans cette version-là, donc j'ai entendu quand même beaucoup de bien à vérifier. Ensuite, Star Wars Bordure Extérieure avec l'extension Unfinished Business. Je la regarde à toutes les fois à la pioche et on a une copie, d'ailleurs si vous voulez, il y a une copie... Je ne sais pas si elle est usagée ou non, je pense qu'elle est légèrement abîmée, en français disponible. Et à chaque fois, j'hésite à la mettre dans mon panier parce que les extensions, je ne suis pas friand par défaut des extensions. Généralement, je retourne très peu souvent dans les jeux. Il faut que ce soit un jeu que je joue à répétition pour me dire j'ai le goût d'avoir une extension. Mais celui-là, Star Wars, Bordure Extérieure, c'est toujours un jeu que j'ai le goût de rejouer. Et quand j'avais fini de jouer mes premières parties, je me suis dit que ça prenait une extension sur ce jeu-là, donc c'est une bonne idée de l'avoir inclus. Bon, je vais me décider un jour. Alors, Mathieu dit que c'est bon, on va suivre la parole de Mathieu. Final Girl est encore dans la liste, bref, il revient souvent. Scout et Skull King ex aequo, donc deux petits jeux de cartes. Skull King, un jeu de levée très malin en grand groupe, et Scout... Un jeu de levée encore là, mais avec une twist très originale de prendre les cartes dans l'état qu'on les a jouées et de double côté. J'ai un petit penchant pour Scout. Moi, ça a été une belle découverte pour nous et on joue énormément souvent en famille. Et finalement, encore une fois, Dune Imperium avec les deux extensions Rise of X et Immortalité. C'est drôle, hein? Ils viennent toujours ensemble ces deux extensions-là. On va rarement dire une plus que l'autre. Ça prend les deux. Alors, ça fait un beau combo, un beau trio plutôt avec Dune, Rise of X et Immortalité. Guillaume Racine parle de Hurt, Destiny, Ark Nova, trois titres qu'on a déjà parlé et qui sont effectivement très bons. Benjamin Morino qui nous parle de Ultimate Railroad, j'ai de la misère avec ce mot-là, Ultimate Railroad. Et Final Girl en deuxième position, toujours présent, et Hun's End Legacy en troisième, qui est excellent, un beau point d'entrée pour ce jeu de deck building-là assez légendaire. Massive Darkness 2, j'ai joué au premier, j'ai acheté le deuxième suite à l'écoute des commentaires de Martin avec son côté asymétrique, j'aime les Dungeon Crawler, et celui-là, je me promets de le faire en compagnie de Stéphane, c'est juste qu'on a beaucoup de campagnes en cours présentement, donc j'attends pour le glisser en deux. Et finalement, Marvel United, qui joue sans arrêt avec ses enfants, c'est effectivement très bon jeu, très bon choix. Donc, merci Benjamin. J'ai ensuite Kevin Vero qui nous parle de Terraforming Mars Ares Expedition. Kevin, je vais être en désaccord avec toi pour une des rares fois. Ça n'a pas été mon coup de cœur, celui-là. Faut dire que j'y ai joué seulement à deux. Et là, ça fonctionnait pas bien. Simplement par le suivi des actions, faisant en sorte que bon, c'était un peu prévisible la façon qu'on jouait. Ça ajoutait pas. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est très similaire au jeu de base. C'était censé être plus rapide, ça ne l'était pas pour moi. Peut-être qu'à plusieurs et en jouant plusieurs fois, ça l'est peut-être. Bref, faut que je lui donne une nouvelle chance avec Terraforming Mars Ares Expedition. Et je sais qu'ils ont commencé à sortir des extensions, donc ça peut être intéressant. Power Plant, classique, Keep the Heroes Out, plus difficile à trouver celui-là, mais très bon jeu que j'ai fait découvrir à Martin et que je pense qu'il a bien aimé également. Quest for Eldorado, hey boy, ok, c'est du classique, excellent choix là aussi. Astro Knight, la version futuriste de Aeon's End, qui pour moi est une belle réimplémentation du jeu effectivement. Et Aeon's End, Past and Future. Donc, on voit qu'il aime beaucoup les deck building. Tout comme moi, donc bon choix, Kevin. Carl nous parle de Frostpunk, Spirit Island, Earth, Deep Rock Galactic. Celui-là, je ne le connais pas. Et Dwelling of Erdreville, qui viennent de faire viennent de ressortir en boutique. Donc, ça, c'est pour moi un très bon et c'est un bon choix. Et c'est un jeu assez atypique. J'aime beaucoup ce que Leclerc fait au niveau design de jeu. Et pour moi, ça fait partie de ces bons jeux. sur le site de La Pioche, il y a la réadaptation Andromeda quelque chose, je viens de souvenir, qui est un peu la réimplantation donc, de Dwelling dans l'espace, et celui-là aussi, je l'attends avec impatience. Jean-François Vachon, lui, va avec, en numéro 1, ce qui est un jeu très difficile à trouver, puisque bon, j'en ai eu quelques copies, j'ai eu beaucoup de demandes, d'ailleurs, désolé à tous ceux qui n'ont pas réussi à mettre la main dessus, mais Isopharion Guard est une très belle surprise cette année, c'est un jeu qu'on a attendu excessivement longtemps, et autant Martin que moi, je pense qu'on a été surpris par, par la qualité de ce jeu-là, la qualité du narratif, le fun qu'on a à faire le backbuilding dans ce jeu-là, la coopération entre les personnages, bref, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses dans ce jeu-là, donc à découvrir, et je dois dire que c'est en grande partie aussi grâce à l'implantation de l'application, donc Foreteller est un gros, gros plus sur ce jeu-là, c'est excessivement bien fait. Ensuite, il nous propose Darwin Journey, qui est un excellent jeu. Hertz, qui revient également. Je pense que c'est celui avec, qui est revenu le plus souvent avec Heat, peut-être, puis Final Girl. Revive, qui pour moi, un jeu que j'attendais depuis SN de l'année passée. J'ai très apprécié découvrir. Je le trouve juste qu'il finit trop vite, en tout cas du moins en solo. Et Solar Sphere, qui revient encore sur la liste. Donc, surprenant, mais agréablement surpris pour moi. Alors, Nicolas, de son côté, nous parle de Hurt, en numéro 1, Star Wars Le Deck Building, que j'attends toujours en version française, donc j'ai commandé une copie, et il y a vraiment un gros décalage entre la sortie en France et la sortie au Québec, on n'a toujours pas reçu la copie en français. Sur les tasses de Darwin, un surprenant jeu de la compagnie Sorry, We Are French. Subterra 2, qui est un classique du jeu coopératif dans sa version d'original dans les cavernes. Le 2, on est dans une montagne avec une éruption volcanique un peu plus complexe, mais toujours aussi bon. Tricta, c'est un petit jeu très malin de tuiles qui est disponible chez Gigamic, je pense, que j'aime bien. Minds Up, qui a gagné des prix récemment, donc c'est Catch Up Game qui est, je pense, là-dessus. Et c'est vraiment beau et un bon jeu que j'ai joué dans sa version prototype et on attend que ça arrive ici au Québec. Tomorrow, que je ne connais pas, alors à découvrir. Mindbug en numéro 8, beau jeu de confrontation aux deux joueurs. Trio, qu'on a essayé de se procurer mais qui n'est toujours pas disponible ici au Québec. Et Mami Moulmaki. Voilà pour un jeu de party, j'imagine, avec la suggestion de Nicolas pour ses découvertes de 2023. Pascal Hébert, il va avec le jeu Alone Edition, donc c'est notre ami Youssef. Et là, il n'en met pas un en particulier, mais il y en a énormément. Donc Black Hole, Way of the Samurai, The Road et Colossus. The Road étant mon favori. Final Girl en numéro 4, qui revient encore. Erune, qui est en numéro 3, avec un aspect intéressant, je pense, au niveau du gameplay, surtout par son application un peu plus ingénieuse. Donc, découvert aux 12 heures ludiques. Et Subterra 2 et Dice Throne. Dice Throne est toujours un classique qui arrive bientôt avec sa version Marvel en français. Ça va être intéressant. Marissa nous parle de Hurt, Etherfield, Terraforming Mars, Ares Expedition. Trio, Final Girl, donc ces suggestions et c'est de très bons choix. Tu as des jeux qu'on a déjà parlé à part Etherfield, mais Etherfield c'est un jeu qui est vraiment différent de tout ce que j'ai dans ma ludothèque, qui est une expérience ludique très particulière, mais que j'aime beaucoup. Donc c'est la compagnie Awakened Realms qui nous amène toujours dans des drôles d'endroits et c'est particulièrement vrai avec celui-là, donc Etherfield. Marie-Ève Allard nous parle de Hambourg, qui est encore là, un jeu très classique. Mille Fiori, qui j'ai pas eu la chance d'essayer encore. Faudrait bien que je m'y mette parce que c'est un auteur assez... On peut pas passer à côté de ses jeux. Il faut toujours aller jeter un coup d'œil qu'est-ce qu'il fait parce qu'il fait souvent des pépites. Sur les traces de Darwin en troisième position, comme je dis, il est vraiment surprenant celui-là. Il revient souvent. Earth en deuxième et Sleeping Gods en première, donc de bons choix. Nicolas Garcia nous parle de Ibris Discorded Cosmos qui vient tout juste d'arriver. Je sais que la boutique La Pioche, notre ami JP, a des copies disponibles. Moi, j'avais joué à la version prototype du jeu. J'ai même une vidéo durant la campagne Kickstarter. J'avais beaucoup aimé. C'est un jeu immense. Pour... Il y a beaucoup de stock sur la table. C'est vraiment un très beau et gros jeu. Graphiquement, il est splendide également. Alors, j'ai hâte de recevoir ma copie pour me remettre dans la partie. Il faudrait que je communique avec l'auteur, puisque, bon, j'étais censé recevoir ça éventuellement. On ferait le suivi. Ark Nova numéro 2, un grand classique déjà. Milfiori avec son extension en 3, il faut bien que je l'essaye. D'orge et de blé, un jeu de bière que je n'ai pas essayé. Et Barrage, un très grand classique de nos auteurs italiens. Très thématique, très punitif, très engageant. Belle expérience de jeu avec Barrage, ça fait partie de mes... sont très... J'ai pas encore fait mon top 10 top 100 officiel, là, mais il va être haut dans mes classements avec Barrage. Emmanuel Gauthier, bon, il en a joué à 77 c'est dans les 6 premiers mois. Il va en suggestion avec Pagan, Shogun, no Katana. Bref, il pourrait en avoir plusieurs, mais il y avait avec ça. Peut-être qu'il y aura Fédération qu'on va recevoir bientôt ici au Québec, qui était pas loin du kiosque à Cannes de nous et qui était même en nomination. J'ai hâte de voir comment ça va jouer ce jeu-là, parce que j'ai idée du jeu, mais j'ai pas joué. Splendor Duel, qui est une très belle implantation du Splendor en mode duel, qui a été bien accueilli chez nous aussi. Heat, toujours de présent. Acropolis et Turing Machine, donc deux nominés l'année passée. Et donc, de très très bonnes suggestions. Sabrina, la Guilde des Expéditions Marchandes, qui pour moi est il va être placé dans ma catégorie Roll and Write, Flip and Write, parce que ça fait partie de ce... C'est un peu plus gros, un peu plus de déploiement, mais c'est le même feeling de jeu, et ça a été un jeu que Stéphane et moi avons grandement apprécié. After Us, c'est toujours pas arrivé ici, et où ça arrive très prochainement, puis ça m'intéresse, je pense qu'il y a un aspect de deck building là-dedans. Earth, on en a parlé, Star Wars The Deck Building en français qui arrive bientôt chez nous, et Evergreen qui vient d'arriver en français chez Gigami, donc à tester, mais je sais que mon ami Steve a fait une vidéo sur la chaîne là-dessus. Alors, je continue là, mais on passera pas toute l'émission là-dessus, mais c'est parce que je voulais prendre la peine de parler de tous ceux qui ont pris la peine de nous écrire. Vous êtes toujours nombreux à nous écrire et à nous partager votre passion, donc je pense que c'est juste normal de vous le repartager et vous dire ce que nos abonnés, le monde qui nous écoute, c'est vous qui êtes derrière l'haut-parleur, pensez de notre hobby. Alors, je suis content de partager ça avec vous. Alors, Céric Martel nous parle de Sleeping Gods, Eleven, Hearth, Endless Winter et Final Girl, tous des jeux qu'on a déjà parlé. Donc, ça va vous donner une idée aussi de la vibe, de ce que le monde aime. Ben nous parle de Aeon's Trépas Odyssey, Packet Chip. On l'avait oublié celui-là, mais il a fait beaucoup parler de lui lorsque c'est sorti. Ça reste un très bon jeu de cocktail game. Ben, non pas de la compagnie Cocktail Game, mais plutôt un jeu que je qualifie de Cocktail Game, donc on peut jouer en faisant autre chose. Sleeping Gods, la roulette russe, pour laquelle j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai pas essayé. Et Super Mega Lucky Box, que j'avais testé il y a déjà 2 ans, je pense, à Gen Con, et qui arrive en français, et nous, ça devrait arriver bientôt. Petit jeu de bingo très très sympathique, qui rentre dans l'esprit d'un Flip and Write ou Roll and Write, qui est très, très bon, addictif. De son côté, Denis Lapierre nous parle de Twilight Imperium 4 en première position, qui est un gros jeu qui demande beaucoup d'investissement et d'amis autour qui vont passer longtemps chez vous, mais ça reste toujours épique comme partie. Heroes of Normandy en 2, Comte de Thiers en 3, que j'ai souvent entendu parler mais que j'ai pas testé. Mythic Battle Panthéon, que j'ai fait de nombreuses parties en compagnie de Stéphane. Stéphane, on serait dû pour ça faire une partie, une revanche de notre fameux duel Achille contre Hector, ça serait intéressant. Et finalement, Archipelagi, je ne sais pas si vous voulez dire Archipelago, je connais Archipelago, mais pas Archipelagi. Alors, ça, c'est un classique si c'est le cas. Guillou nous parle de Undaunted Stalingrad, que j'ai toujours pas essayé, mais ça, comme c'est une campagne, Undaunted, pour moi, l'inflexible, ça reste un excellent, bon jeu de guerre, mais c'est pas vraiment un jeu de guerre, c'est un jeu de deck building, de positionnement, de confrontation de joueurs. Il y a différents boîtes qui sont sorties. J'ai toujours pas mis la main sur Reinforcement pour pouvoir le tester en solo, entre autres. Mais je me promets, donc, dès que JP a ça en boutique, que je me réserve une copie. Stalingrad est sorti plus tard. C'est une grosse boîte avec une campagne qui est... Donc, chacune des parties ont une incidence sur les prochaines. Et comme j'ai beaucoup de campagnes en cours, je vais attendre avant de me le procurer parce qu'il faut que je me trouve un collaborateur. Et c'est Stéphane avec qui je vais jouer à ça. Mais pour ça, ça me prend du temps. Et présentement, c'est ce qui manque, un peu de temps. Thunder Road Vendetta, qui est un petit jeu de course, mais de course sanglante, que j'ai toujours pas essayé. Star Wars Shatterpoint, que je n'ai pas encore essayé également. Hégémonie, qui a été ma surprise de l'année, qu'on a essayé avec Martin et Stéphane. Et Darwin Journey, le Collector, le monde précise Collector, parce que je pense qu'il fait la différence. Et finalement, Étienne nous parle de Nana, de Darwin Journey, de Horseless Carriage, de Hégémonie et de Stock Market. Alors, tous de bons choix qui méritent le détour. Alors, c'était la suggestion de nos abonnés au niveau de leur surprise 2023, donc les jeux qu'ils avaient testés et qui avaient surpris leur univers ludique. Il y a beaucoup de jeux qui reviennent souvent, comme je l'ai dit. Ça vous donne une idée de ce qui sera les incontournables, je pense. Alors, si vous avez pris des notes, ça vaut la peine. Sinon, ben, réécoutez l'épisode et vous allez pouvoir vous en prendre parce que je pense que c'est assez surprenant que, comme moi, il y a quand même une unanimité à travers certains titres et d'autres peut-être plus rares qui sera à découvrir. Alors, voici pour ce qui était de nos abonnés. J'ai parlé tantôt de réception de jeux à la pioche et un de nos abonnés nous a partagé une vieille vidéo classique qui m'a fait tellement rire parce que à l'époque j'avais ri et là je ris d'une autre façon, peut-être un peu plus jaune, mais c'est vraiment très bon. Donc c'est Pascal Martineau qui nous a partagé le clip de Ace Ventura Pet Detective avec sa livraison spéciale de colis. Tellement bon et tellement de contexte pour aujourd'hui. Quand vous avez des boîtes qui arrivent avec des petits coins poqués, ça vous donne une idée. Donc allez voir ça sur la page Facebook des fans de l'autre côté du plateau ou sinon allez sur Facebook ou sur YouTube et tapez donc Ace Ventura Pet Detective spécial livraison de colis. Vous allez avoir le petit clip et ça vaut vraiment ça vaut le détour et ça fait rire jaune un peu dans le contexte aujourd'hui où ce qu'on a des colis qui arrivent souvent pas mal abîmés. Ça vous donne une idée de ce qui se passe vraiment dans le camion avant que ça arrive devant votre porte. Alors, ben, c'était pour un petit retour de ce qui se passait sur notre page Facebook. Je pourrais continuer longtemps. On a entre autres MVoptis qui est venu visiter la boutique JP. Donc, c'est des abonnés du vieux continent qui viennent faire un tour au Québec et qui prennent le temps de venir se déplacer dans nos différentes succursales et nous dire bonjour, soit chez Randolph, soit à la Pioche. Donc, toujours apprécié. N'hésitez pas quand vous passez, vous nous écrivez à Martin et à moi, puis si on est capable de se libérer, je me fais toujours un plaisir d'aller partager un verre, partager une partie en votre compagnie. Donc, ça m'est arrivé récemment avec une abonnée qui est venue avec son conjoint ou son amoureux et qui rejoignait un groupe ici au Québec. Donc, j'ai été passer une soirée dans le pub avec eux, prendre un verre, jaser, faire quelques parties. Toujours super agréable de rencontrer des gens. Donc, n'hésitez pas. On peut se libérer, on est là. Puis, c'est toujours plaisant de pouvoir faire cette activité-là. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un épisode A, un épisode B, c'est vraiment un épisode bonus dans lequel j'improvise totalement plein de choses. Et je m'étais promis de faire quelque chose de différent, donc je vous propose de faire un quiz sur les jeux de société, mais qui sera le prétexte pour mettre de l'avant les trames sonores de jeux qu'on a officiellement publiées dans certains cas, officieusement dans d'autres, et qui nous permet d'améliorer nos parties, nos ambiances de parties et ou de contribuer au gameplay directement. Donc, je ne sais pas si pour vous, vous appréciez cette expérience-là, si vous l'avez déjà testée. Je pense que c'est très adapté dans certains cas, ça l'est peut-être moins dans d'autres. Des jeux qu'on a besoin de concentration, il faut que ça soit vraiment en faible volume en arrière-plan. D'autres, ça ajoute au côté immersif. C'est surtout présent dans les jeux narratifs ou des jeux d'aventure, d'exploration, qui vont représenter des scènes dans lesquelles on est. Donc cette fois, c'est vraiment génial et ça nous permet de nous vraiment nous immerser dans le jeu, dans l'expérience de jeu, et c'est un gros plus. Alors, je vous donne les grandes lignes de ce que sera le quiz. Donc, je vais commencer par vous donner un petit indice par rapport au jeu. On va toujours chercher un titre de jeu. Je vais ensuite vous faire écouter une trame sonore en lien avec ce jeu-ci. Ça me permettra également de glisser de la musique dans le podcast et vous peut-être d'apprécier ou de découvrir des nouveaux artistes. Ensuite, je vais vous revenir avec une série d'indices. Donc, si vous trouvez la réponse directement après l'enregistrement, après la trame sonore, vous pouvez prendre un crayon, un papier, l'indiquer de faire le premier essai. Et si vous l'avez à ce moment-là, ben, ça sera le plein point. Donc, ça sera 5 points pour votre bonne réponse. Ensuite, je vais donner des indices. Et à chaque fois que je vous donne un indice, vous pouvez inscrire une réponse sur votre papier. Et à chaque indice que vous allez utiliser pour trouver la bonne réponse, c'est moins un point. Donc, il va toujours y avoir une trame sonore et 4 indices. Donc, si vous l'avez quelque part dans ce range-là, ça vous fera un certain nombre de points. Ça a l'air compliqué, mais je vais vous confirmer. Là, après avoir posé la question, je vais vous donner un peu plus d'indications et vous allez voir, ça va être très simple. Alors, simple au niveau comment ça se passe, simple au niveau quiz, ça c'est une autre chose, ça risque d'être compliqué pour certains, mais je vais donner suffisamment d'indices pour vous aiguiller vers le bon choix. Alors, vous êtes prêts, vous avez été chercher votre crayon, votre papier, je peux vous laisser quelques temps, donc je vous mets une petite musique d'ambiance, le temps d'aller chercher ces instruments-là, et on se revoit pour le début du quiz dans quelques secondes. Alors, vous êtes prêts? Vous commencez déjà à entendre la musique en arrière-plan. Il s'agit d'un premier jeu et je vais commencer par vous dire que c'est un jeu tout récent parce que la date de sortie, c'est 2023. Alors, vous avez vu que c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de références au niveau sonore pour les jeux de société, malgré le fait qu'on voit qu'il y a quand même des ouvrages de qualité qui se font, qui nous permet vraiment d'apprécier. J'ai essayé de choisir une des trames qui va représenter un peu plus le jeu dans son esprit, parce que donc il y a plusieurs pistes ou plusieurs chansons, titres en lien avec ce jeu-ci. C'est un album au complet qui a été produit. Et si vous avez directement, vous pouvez faire un essai, marquer un titre sur votre papier. Et si vous l'avez là avant le prochain indice, ça vous donne 5 points. Sinon, on continue en vous donnant un premier indice. Et là, vous pourrez faire une deuxième tentative ou peut-être confirmer votre premier choix. Et selon le nombre d'indices que vous utiliserez, ça sera un point de moins à chaque fois. Alors, premier indice, je vais aller avec un placement d'ouvrier historique. Aussi classique que sa bande sonore. Alors, c'était mon premier indice. Donc, vous savez quel genre de mécanique de jeu. Et on parle d'histoire également. Donc, un placement d'ouvrier historique, classique comme sa trame sonore. Alors, c'était pour mon premier indice et on continue un petit peu sur le deuxième. Je vous laisse le temps de remplir votre suggestion sur votre papier. Comme deuxième indice, on peut parler d'un jeu d'exploration. Alors, à la recherche de connaissances et de collection d'ensemble. Donc, c'est un jeu d'exploration qui nous envoie à la recherche de connaissances et de collection d'ensemble. C'est pour le deuxième indice. Et là, comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez inscrire une réponse et quand je vous donnerai la réponse, selon si vous l'avez, dans quelle position, ça vous donnera votre pointage. Troisième indice, le personnage principal a même profité de ses voyages pour publier l'une des plus célèbres théories dans un livre publié le 24 novembre 1859. Alors, on parle quand même d'un personnage historique qui a existé. 1859, ça vous donne un contexte, une idée. Et c'est pour le troisième indice. Donc, personnage principal a même profité de ses voyages pour publier une de ses plus célèbres théories dans un livre publié le 24 novembre 1859. C'était pour le troisième indice. Et finalement, en quatrième indice et dernier, alors c'est un jeu euro dont les auteurs sont un tandem italien cette fois-ci, un tandem d'auteurs italiens à la base de ce jeu-ci. Et là, ça vous donne une bonne indication vers où je m'en vais. Et c'est peut-être en bateau que j'y vais. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé. Donc, la réponse, je vous donne ça à l'instant. Roulement de tambour. Il s'agit de Darwin Journey. Donc, Darwin Journey est le titre de jeu qu'on recherchait. Alors, si vous l'avez eu directement après la trame sonore, ça vous donne 5 points. Si vous l'avez eu après l'indice de placement d'ouvrier, ça vous donne 4 points. Si vous l'avez eu après l'indice de collection d'ensemble et de recherche de connaissances, donc le deuxième indice, on descend à 3 points. Et ainsi de suite, jusqu'à 1 point si vous l'avez à la quatrième indice. Et si vous ne l'avez pas trouvé, et vous devinez, ça fait un total de 0. Alors, vous comprenez le principe. C'est tout simple comme ça. Je vous donne une série de jeux à trouver. Et ça va dans le même format en commençant par une trame sonore. Alors, le jeu Darwin Journey, pour en parler un peu, c'est un jeu qu'on vous a déjà parlé dans notre top 5 des jeux les plus appréciés cette année, dans mon cas, et c'est revenu dans quelques cas dans les abonnés qu'on a parlé tantôt. Donc, c'est des auteurs italiens Simone Luciani et Nestor Mangone. C'est également eux qui étaient à la base, entre autres, de Barrage, que je vous ai parlé également. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 14 ans et plus, parce que quand même un bon degré de difficulté de 3.82 sur 5 sur BGG. C'est un jeu de la compagnie Thundergriff Game et qui devrait arriver en français éventuellement. J'ai les infos. Je ne sais pas si ça a été publié, donc je n'irai pas plus loin, mais sachez que ça s'en vient également en français. On parlait de collection, de l'édition Collector qui était appréciée parce qu'effectivement, il y avait quelques goodies intéressantes, entre autres de l'argent sonnant pour Martin. Beaucoup de mécaniques de jeu, c'est une collection d'ensemble, un déplacement point par point, c'est une exploration sur une map. On a différents placements d'ouvriers à faire également pour être capable d'aller chercher des set collections, aller trouver des observations d'animaux, aller porter au conservatoire, faire des points. C'est un jeu dans lequel l'argent est difficile à aller chercher. C'est un jeu, j'ai fait seulement une partie. Et à la fin de la partie, je me suis dit, il faut que je rejoue à ce jeu-là parce que j'ai vraiment pas optimisé ma partie. C'est ce genre de jeu-là qu'on veut refaire et refaire pour s'améliorer. Donc, un voyage dans les îles de Galapagos qui nous permet donc de recréer un peu l'univers ou le voyage de Darwin pour sa théorie de l'évolution. Donc, c'est également ce qu'on cherchait. Donc, théorie de l'évolution. C'est ce qui a été paru dans L'origine des espèces, le livre de 24 novembre 1859. Alors, c'était pour le premier jeu. Je vous propose d'y aller avec le deuxième et mon indice, en plus de la trame sonore que vous commencez à entendre. C'est un jeu qui est publié en 2021. C'est pas facile, mais c'est une très très belle mélodie. Alors, un indice qui va vous permettre de faire, je pense, un essai. Laissez-vous guider par l'esprit de la mélodie. Qu'est-ce que ça vous représente? Quelle image vous voyez lorsque vous entendez cette mélodie-là? Et essayez de mettre un jeu en lien avec ce que vous ressentez. Et j'y vais avec ma première indice. Donc, si vous avez besoin, assurément, probablement, d'indices supplémentaires. Alors, il semble que le talent est inné dans la famille de cet homme orchestre. Et là, je fais référence autant à la musique qu'au jeu. Alors, il semble que le talent est inné dans la famille de cet homme orchestre. C'était le premier indice. Alors, pendant que vous entendez toujours la belle mélodie, vous pouvez y aller avec une deuxième proposition de jeu pour notre deuxième jeu qu'on cherche dans notre quiz axé sur la musique. J'y vais avec mon troisième indice. Alors, pas facile de mener à bon port notre équipage. Heureusement, il y a un Canadien à bord. Alors, je vous propose comme indice de vous parler d'équipage, de Canadien à bord. Et je vais même aller jusqu'à dire son prénom, puisqu'il s'agit de Laurent. Donc, si vous connaissez Laurent, vous connaissez peut-être le titre du jeu qu'on cherche, publié en 2021. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé, vous avez sûrement fait un essai. Je vais quand même vous donner un quatrième indice supplémentaire pour ceux qui sont peut-être perdus. Alors, vous êtes perdus, c'est normal, cherchez les totems et apprenez-en davantage sur votre passé. Alors, si vous êtes perdus, cherchez les totems, c'est l'indice numéro 4 pour trouver le titre d'un jeu qu'on a parlé encore aujourd'hui. Alors, je pense que ça devrait être bon. Plusieurs d'entre vous l'auront trouvé. Reste à voir à quel rang vous l'avez trouvé. On parle bien sûr du jeu Sleeping Gods. Sleeping Gods, déjà un classique des jeux narratifs avec un monde ouvert assez spécial. Un jeu excessivement bien coté sur BGG, encore une fois, avec une cote de popularité de 8.3, ce qui est énorme. Il est déjà dans le top 100 avec une 55e position. C'est un jeu, bien sûr, de Ryan Lockett, qui est illustré également par Ryan Lockett quand je vous parlais d'homme orchestre. Et la trame sonore que vous avez écoutée est de Mallory Lockett. Donc, je pense que c'est la conjointe de Ryan qui, ma foi, énormément de talent dans la famille. Donc, elle a fait composition de Sleeping Gods en trame sonore, mais également du jeu Nightfall, qui est un autre jeu de Ryan Lockett qu'on a peu entendu parler. Alors, ça sera à tester et à découvrir de mon côté. Il y a très peu de personnes quand même qui ont téléchargé et écouté les fameuses trames sonores de ces deux jeux-ci. Mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur YouTube Musique et de taper Mallory Lockett et vous allez pouvoir comme ça découvrir son œuvre avec de magnifiques compositions qui sont très bien adaptées aux différents jeux. Donc, belle découverte de ce côté-ci. Alors, c'était pour la présentation. Peut-être un jeu qui se passe de présentation, mais qui, depuis sa sortie et depuis, en plus, la traduction en français chez Lucky Dog Game, a bien fait parler de lui. Donc, Sleeping Gods, sorti 2021, et on n'a pas fini d'en entendre parler, surtout qu'on a Standalone qui arrive très prochainement avec Distant Skies, qui devrait également, pour ma part, être très attendu. Alors, c'est à suivre, et c'était notre deuxième jeu avec notre quiz pour Sleeping Gods. Pour notre troisième jeu, on parle de classique, un jeu plus vieux, 2016, la date de la sortie du premier opus de ce jeu. Alors, je ne sais pas si ça vous a donné un indice. Je vais vous donner la chance d'écrire une réponse avec qu'est-ce que la musique vous a inspiré. Et je vais y aller avec un premier indice pour ceux qui en ont besoin. Et vous êtes probablement nombreux. Alors, c'est un jeu de cartes, toujours d'actualité, avec des extensions presque à chaque année. Un nouveau spin-off d'ailleurs, ou plutôt une réimplantation du jeu, vient de sortir dans un autre univers en 2023. Alors, c'est assez complet comme suggestion. On a déjà parlé. Alors, c'est l'indice numéro 1 pour ce jeu qu'on cherche. Alors, je vous laisse écrire la réponse. Vous aimeriez peut-être avoir un autre indice pour faire une autre réponse ou même peut-être confirmer celle que vous avez déjà écrite. Alors, j'y vais avec un deuxième indice. Si vous n'êtes pas très bon pour brasser des cartes, ce jeu est idéal pour vous. Donc, pas bon pour brasser des cartes, C'est un jeu pour vous. C'est mon deuxième indice pour ce jeu de 2016. OK, vous avez besoin que ça soit un peu plus spécifique. Je vais vous ajouter en troisième un de mes meilleurs deck building coopératifs. On jeu de cartes, c'est un deck building, c'est coop, 2016. Pas mal d'indices, vous devriez être bon, donc je vous laisse écrire votre réponse. Et finalement, comme quatrième et dernier indice, je vais être encore plus spécifique, parce que je vous dis, ouvrez des brèches, préparez vos sorts, vous avez une ville à protéger. Alors, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui ont trouvé, ou du moins qui ont fait des essais, et je vous livre la réponse à l'instant avec Aeon's End, c'est le titre qu'on cherchait, donc Aeon's End, un classique du deck building de 2016 qui est sorti énormément d'extensions, de stand-alone, de spin-off même, parce qu'on a parlé tantôt d'une réimplantation dans un monde plus futuriste. Et c'est le jeu Astro Knight qu'on a déjà parlé sur la chaîne. Donc, pour moi, ça reste un de mes jeux préférés, au niveau deck building, c'est sûr et certain. On a parlé aussi dans notre top 10 tantôt de Aeon's End Legacy, qui est un bon point d'entrée si vous ne le connaissez pas. C'est sûr que la version initiale du jeu, niveau graphique, ça se démarquait pas de façon exceptionnelle. Il y a eu une réimplantation un peu améliorée. Ça reste pour moi qui est très sommaire comme illustration. Mais niveau gameplay, niveau ajustement, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-ci, c'est la façon que le jeu est balancé. Ça devient très, très vite. C'est sur les derniers coups que ça se joue. C'est très tendu. Et la collaboration entre les personnages est essentielle et chacun des vilains a son propre deck qui fait en sorte que c'est différent, le feeling de partie est différent d'une partie à l'autre selon quel monstre, quel vilain on combat. Alors très belle, très, très beau design de jeu avec Aeon's End, 1 à 4 joueurs, 60 minutes par partie, 2.80 sur 5 au niveau difficulté. Et c'est un jeu qui a été maintenant traduit en français, donc belle suggestion si vous ne connaissez pas. Grand classique Aeon's End. Alors, le prochain jeu, quatrième, sera assurément plus difficile puisque c'est un jeu qui arrive en boutique en 2023. Il est encore tout chaud. On en a déjà entendu parler, mais c'est peu d'entre vous l'auront joué. Alors, je vous laisse découvrir la trame sonore. Encore une fois, je vous invite à rester dans l'esprit d'ouverture sonore et de vous laisser guider par les images qui apparaîtront à votre esprit en entendant cette belle pièce. Et je vous invite à écrire une première réponse sur votre feuille en attendant la prochaine indice qui arrive dans quelques instants. Pour un indice, j'imagine que oui. Alors, c'est un jeu d'une compagnie reconnue pour ses gros jeux, mais le titre que l'on cherche est probablement l'exception à la règle. Donc, c'est une compagnie de gros jeux qui arrive avec un jeu plus petit et qui vient de sortir 2023. C'est un jeu, donc le titre qu'on cherche, le titre du jeu. Alors, je vous lis un petit peu le contexte qui est proposé au niveau de l'univers dans lequel on se trouve le jeu, qui va peut-être vous donner un peu plus d'indices. C'est pour le deuxième indice. Ce n'est que dans quelques coins du monde que la mémoire de la magie est encore vivante, même si, il y a quelques siècles, son pouvoir de guérison imprégnait tout le monde. Les sorcières, ces dernières pratiquantes, ont toujours été des parias et ne pouvaient aider la société humaine que dans de plus stricts secrets. Alors, une mise en contexte qui vous donne une idée dans quel univers qu'on se trouve. Des sorcières. Intriguant. Toujours pas trouvé? On y va avec un troisième indice. Alors, ce jeu est peu connu encore, mais si on se casse un peu la tête pour voyager dans le temps, en 2017, pour assister à la sortie du premier grand classique de cette compagnie, on aura peut-être un peu plus d'indices sur le jeu. Et finalement, vous aurez peut-être trouvé la compagnie que je parle, parce que j'ai semé quelques indices à droite et à gauche. Le titre du jeu sera peut-être un peu plus difficile, en espérant que mon prochain indice, qu'à la sortie du jeu, les sceptiques seront confondus. Ok, je sais, vous allez dire, c'était donc pas facile celui-là. C'était pas facile parce que c'est un jeu encore peu connu. Mais la compagnie, il y en a certains d'entre vous qui l'ont sûrement trouvé. On parle bien sûr de la compagnie Mind Clash Game, reconnue pour ses gros jeux, mais qui arrive en 2023, qui est probablement un des plus petits jeux de cette gamme-là. Et on parle du jeu Septima. Donc Septima est le nouveau jeu de la compagnie Mind Clash Game dans l'univers des sorcières. Alors c'est ce que je cherchais en quatrième jeu de proposer dans notre quiz avec Septima. Ok, pour notre cinquième jeu, je vous propose peut-être un univers un peu plus joyeux et je vous emmène dans un jeu de notre top de l'année 2022. Alors, voici la première. Cette fois-ci, je pense que la trame sonore vous donne quand même certains indices parce qu'elle est très représentative du jeu ou de l'univers dans lequel il se trouve. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont trouvé ou qui pensent avoir trouvé. Je vous invite à inscrire votre réponse sur votre feuille. Et pour les autres, qui seront également probablement nombreux, on y va avec un premier indice. Alors, pas facile de se tenir au chaud à cette époque. Pas facile de se tenir au chaud à cette époque. C'est pour le premier indice. Deuxième indice, vous êtes prêts? Alors, pas moins de 10 mécaniques de jeu se retrouvent dans ce premier projet Kickstarter de cette jeune compagnie. Alors, un premier projet Kickstarter, avec énormément de mécaniques de jeu, ça vous dit peut-être de quoi? C'est le deuxième indice. Prêt pour un troisième indice? C'est peut-être une jeune compagnie, mais ils ont quand même fait affaire avec des artistes de renom, comme en fait foi le nom du concepteur, qui est à l'origine entre autres du jeu Dice Hospital et Rurik Dawn of Kiev, méconnu mais un excellent jeu. Alors voici pour mon troisième indice. Et finalement, quatrième indice, ce n'est pas que le concepteur qui est quand même connu, son artiste est quand même remarquable par son trait graphique et ses illustrations qu'il a fait entre autres sur la boîte du jeu. C'est un artiste qu'on ne doit pas prononcer son nom, surtout parce qu'il est très difficile à prononcer. Alors, quatrième indice, artiste de renom au nom compliqué. Alors, vous avez trouvé? Peut-être que oui, peut-être que non. On évoque la réponse. Endless Winter Paleo-American. Et le nom de l'artiste, Mihalo Dimitrievski. Ou plutôt, de Miko pour les intimes. C'était pour le jeu Endless Winter Paleo-American. Et pour ceux qui connaissent pas le jeu, ben Endless Winter Paleo-American est effectivement un jeu sorti sur Kickstarter. 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes par partie, 3.25 sur 5 au niveau complexité. Une belle mécanique, je dis une belle mécanique, mais effectivement, il y a pratiquement une dizaine de mécaniques dans ce jeu-ci. La beauté, c'est que c'est assez bien implanté et imbriqué les uns avec les autres, qui fait en sorte que le tout est très homogène. On a l'impression que tout fonctionne super bien ensemble. C'est une belle trouvaille, ça a été un coup de cœur d'ailleurs de notre ami David lors de sa sortie. C'est un des rares jeux qui est backé sur Kickstarter. Et moi j'ai eu la chance de le découvrir en sa compagnie. En plus il y a un aspect de deck building qui n'est pas négligeable, que j'aime bien. Très beau jeu, j'ai pas testé le solo. C'est un jeu qui va sûrement éventuellement arriver dans ma ludothèque. qui est toujours pas présent, mais je l'ai sur le coin de l'œil et éventuellement, lorsqu'il y a une copie disponible, ben ça sera sûrement juste à Mal de Tech avec Endless Winter Paléo American. Alors pour mon sixième jeu, j'ai pensé à vous faire quelque chose d'un peu spécial. On parle de 6, c'est représentatif. Alors je vous propose plutôt une série de musiques. Et ben là, pas des musiques de jeux, mais des musiques de films essentiellement, qui vont vous donner un indice final sur le jeu qu'on cherche. Intriguant tout ça? Alors vous devez par contre trouver le film qui est tiré, donc chacune des musiques. Donc pour chaque bonne réponse, vous avez un point. Donc c'est 5 points au total, mais j'ai besoin d'une bonne réponse à chaque question. Et là, la première question, c'est auditif et c'est la trame sonore qui part à l'instant. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se sont dit « Ah, je connais ça, mais c'est lequel? » C'est lequel, je ne serais pas très très difficile. Donnez-moi une bonne réponse dans la gamme au complet et c'est bon pour moi. Alors, musique de film, reconnue, ça vous a donné c'est sûr des indices. J'ai besoin présentement en première position donc le titre du film. Et on enchaîne immédiatement avec un deuxième extrait sonore pour un deuxième film. Vous avez probablement une bonne idée où est-ce que je m'en vais avec le jeu, parce qu'au bout de la ligne, on va additionner tous ces films-là, et ça va nous donner notre titre de jeu final. Mais avant, on doit passer par les autres étapes, et tout ça, c'est avec une autre bande sonore d'un autre film, et c'est parti. Ça se corse un peu, hein? Vous savez, vous l'avez déjà entendu, vous avez une bonne idée, mais c'est quoi exactement? C'est toujours difficile de mettre le doigt exactement dessus. Quand je vous donnerai les réponses, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai ». Alors, c'était pour le troisième extrait de film. On y va avec un quatrième et dernier extrait de film pour vous donner le titre final ensuite du jeu. Donc, on y va avec la dernière trame sonore. Et pour les fins connaisseurs, vous avez remarqué qu'on change un peu de registre au niveau cinématographique. Alors, mais tout ça mis ensemble, ça fait un tout cohérent. Donc, comme je vous ai dit, c'est un type de film pour chacun des quatre extraits sonores que je cherche. Et la cinquième question, c'est si vous additionnez tous ces films-là que vous avez peut-être trouvés, ou du moins l'idée des trames sonores que vous avez entendues, ça vous donne le jeu que je cherche. Donc, finalement, c'est le titre de ce jeu. Je vais même vous donner un petit indice supplémentaire, uniquement en solo à thématique. Alors, c'est ce qu'on cherche comme film, mais surtout jeu final pour la cinquième question de ce sixième jeu qu'on cherche. Alors, je vous laisse inscrire votre réponse avant de vous donner la réponse finale. C'était bien sûr le jeu Final Girl, un jeu uniquement solo avec des parties de 20 à 60 minutes qui reprend différentes thématiques de films d'horreur ou de films de science-fiction. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé associer des musiques de films en lien avec les extraits sonores. Mais là, j'ai besoin de vous donner les réponses, parce que oui, il y a des réponses. Donc, à la question 1, la première trame sonore, vous avez répondu quoi? Ben, je ne peux pas vous entendre, là, mais je vais vous dire la réponse. Vous me direz si vous avez les bonnes réponses. Le titre du film, premier extrait sonore, je suis sûr que ça a réveillé quelques frissons parmi dans vous. Donc, un film que vous avez vu dans votre enfance, c'est sûr. 1978, l'apparition originale de ce classique, de cette série de films, qui est Halloween. Halloween, classique des films d'horreur. Et là, je vous donne pas lequel parce qu'il y en a eu une panoplie. Mais c'est John Carpenter qui est à la tête de ça en 1978. Et ça reste un grand classique des films d'horreur avec Halloween. En deuxième indice, je vous ai partagé un autre film d'horreur qui, ma foi, était tout aussi terrifiant. Alors, c'était Friday the 13th. Notre classique des films d'horreur. Alors, Friday the 13th, c'était le deuxième titre de film qu'on cherchait, avec notre deuxième extrait sonore, toujours pour un point à chaque bonne réponse. Troisième, peut-être plus difficile celui-là, une trame sonore qui date des années 60. Quand même, les films d'horreur ont commencé, ça fait longtemps, et un maître du mystère et du suspense, c'était Alfred Hitchcock. Donc, un film d'Alfred Hitchcock qui a quand même fait parler de lui avec Psycho de Bernard Herrmann au niveau composition sonore. Là encore, c'était une pièce que je pense que plusieurs d'entre vous ont reconnue. Reste à savoir si vous avez mis le doigt exactement sur le film avec Psycho en troisième position pour un point. Finalement, quatrième position qui est dans un autre registre que je vous ai dit puisqu'on n'est pas dans le film d'horreur proprement dit, mais plus dans la science-fiction d'horreur, je dirais. Et c'est une trame sonore d'un orchestre qu'on a connu en 1982. Et c'est de l'auteur-compositeur Ennio Morricone. Donc, je ne sais pas si mon italien est bon, je ne sais même pas s'il est italien. Mais bref, c'est une trame sonore qui, moi, m'a marqué, qui a marqué plusieurs d'entre vous. C'est un film d'horreur, oui, mais de science-fiction un peu, puisqu'on parle du jeu, du film plutôt, The Thing. C'était ce qu'on cherchait pour en quatre positions, donc The Thing, la trame sonore du film. Et finalement, ben, en cinquième, vous savez, ce qu'on cherchait, c'était le film, plutôt le jeu. Final Girl, c'est un autre point, donc possibilité de faire 5 points si vous avez 5 bonnes réponses. Sinon, ben, vous me dites combien de bonnes réponses et ça vous donne votre pointage. Et vous êtes prêts pour notre septième et dernier jeu? Je vais être thématique cette fois-ci avec l'année 2017. Et là, vous remarquez que je suis dans un autre registre complètement, parce qu'il y a certaines trames sonores qui sont de la musique, d'ambiance, il y a certaines trames sonores qui sont plus des atmosphères qu'on recrée pour le jeu qu'on joue. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a retrouvé cette trame sonore-là. Encore une fois, si vous vous laissez bercer par, je dirais la musique, mais c'est pas nécessairement que de la musique, ça vous donne une bonne indice par rapport au jeu. Donc, vous pouvez faire une première essai en marquant votre réponse. Et pour ceux qui auraient besoin d'un indice supplémentaire, ben j'y vais. Donc, comme vous avez pu entendre, un jeu d'exploration pour 1 à 4 joueurs qui a été en nomination au Golden Geek Award pour meilleur jeu solo lors de la même année 2017. Besoin d'un indice supplémentaire, c'est un jeu qui est passé par une campagne de sous-financement, Kickstarter, qui a amassé plus de 1,2 million d'euros et qui a ramassé plus de 12 000 contributeurs. C'est pas rien pour 2017 et même avant, parce que ça a quand même été long à livrer comme projet. Un jeu que j'ai à ma collection. Troisième indice, je vous ai parlé un peu de 1,2 million d'euros. Alors, ça vient d'Europe et c'est un jeu disponible en français puisque les deux auteurs sont également français. Et finalement, quatrième indice, et je pense que j'ai été quand même assez loquace dans mes indices. Alors, bien que peu de monde l'ont déjà visité, vous connaissez sans doute les 6 autres. Hi, intriguant tout ça. Hein? Alors, faites le lien, ceux qui connaissent la réponse vont dire « ben oui, ça a du bon sens ». Les autres vont se dire « qu'est-ce qu'il veut dire là ?» Alors, une dernière fois, quatrième indice, bien que peu de monde ont visité, vous connaissez sans doute les 6 autres. Jeu d'exploration. Alors, vous avez sans doute découvert la réponse parmi les indices, parmi la trame sonore, peut-être pas. On parlait de mon grand classique, puisque j'ai fait de maintes et maintes parties sur la chaîne, plus de 16 pour être précis, en compagnie de Victor qui visitait le 7e continent. Effectivement, c'est un jeu qui a une trame sonore officielle directement sur le site. Donc, si vous allez voir Serious Pulp, qui sont la compagnie d'édition des auteurs qui nous ont proposé cet excellent jeu d'exploration. Donc, vous avez une trame sonore disponible pour chacun des actes que vous allez être dans le jeu, parce que c'est un grand monde et vous vous déplacez d'un endroit à l'autre. Et chaque atmosphère, chaque emplacement a sa propre trame sonore qui est en lien avec les cavernes, la jungle, le bord de mer. Donc, c'est excessivement bien fait et ça reste immersif quand vous y jouez. Donc, si vous ne connaissez pas le 7e continent, c'est sûr que c'est pas facile à trouver, mais c'est déjà un classique dans les jeux d'exploration et en solo, il est excellent. Donc, 7e continent, c'était ce qu'on cherchait comme notre 7e jeu. Alors, ça fait un beau total de 7 jeux, ça fait un beau total de 35 points. Donc, je vous laisse faire le pointage final de votre classement. Et peut-être partager sur les fans de l'autre côté du plateau votre pointage. Ça sera toujours intéressant à partager et à dire quelles sont vos erreurs, quels sont vos bons coups. Si vous avez apprécié aussi le concept, je me fais un petit peu de liberté. Martin n'est pas là, on en profite. Et ça nous permettra comme ça de peut-être vous revenir avec d'autres formules du genre, améliorer, modifier. J'aime ça improviser et vous le savez. Alors c'était ma proposition de quiz audio pour les jeux de société de notre podcast de l'autre côté du plateau. Alors c'est ce qui met fin à notre émission en l'absence de Martin. Je vous l'ai dit, c'est pas une émission complète, c'est pas une face A, c'est pas une face B, c'est un épisode bonus. Vous allez dire « Ah, c'est plus court ». Oui, mais parler en seul, je préfère avoir Martin avec moi. Martin, je m'ennuie. On t'attend. Reviens pas de vacances. Là. Prends ton temps à prendre des vacances. Mais quand tu seras là, on pourra jaser. Et tu me diras si quel a été ton pointage de ton côté. Je serais curieux de le savoir. Alors, on souhaite tous une bonne semaine ludique. Et, je vais attendre de vous lire pour voir vos résultats. Félicitations encore à notre gagnant pour le pool. Et on vous revient la semaine prochaine avec le tirage pour les prix de présence. Alors, c'est un rendez-vous comme à chaque semaine pour notre podcast de l'autre côté du plateau. Bon week-end à tous. Bye.
Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzsprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!